France Culture.
Titouan Lamazou, bonjour.
Bonjour.
Comme promis, en fin d'épisode précédent, nous allons parler des femmes. Aujourd'hui, ou plutôt du monde au féminin, puisque vous avez photographié, je sais pas, des centaines, des milliers de femmes sur tous les continents. D'ailleurs, quand j'ai regardé votre site personnel, à l'onglet voyage, j'ai été tout de suite frappée par le nombre de femmes. Et puis vous avez consacré plusieurs livres aux femmes du monde. D'ailleurs, Femmes du monde, c'est un livre en lui-même en deux volumes. Et puis il a été suivi de Mulheres, les femmes du Brésil, de Afghanes, de Ténèbres au paradis sur les femmes des Grands Lacs. Et puis derrière nous, là, dans votre atelier, il y a toutes les femmes que vous avez mises en boîte, oui. Pour reprendre votre expression, dans des boîtes en carton, tellement...
Pas des milliers, il y a 230 boîtes.
Ah oui, 230 boîtes, c'est pas plus de photos de femmes et de rencontres. Bon, est-ce que c'est au fil de vos voyages, de vos rencontres, est-ce que cette photographie de femmes part d'un amour, d'un engagement, d'un féminisme particulier ?
Alors... je sais pas trop quoi vous répondre parce que je suis pas très bon pour l'introspection et d'essayer d'expliquer.
C'est dommage, c'est ce qu'on fait depuis le début. Hein.
Au début, ce projet, j'ai voulu partir avec un petit peu comme d'ailleurs j'avais lu un livre de Robert Louis Stevenson qui s'appelle Le Maître de Ballantrae, qui est peut-être pas le plus connu mais qui est sûrement le plus brillant. Et Stevenson avait écrit ce livre en une nuit, c'est-à-dire qu'il l'a écrit, et enfin il a fait le schéma de ce livre, et il a dit « je veux que ce livre se passe dans le monde entier, et je vais aller faire voyager mon lecteur un peu partout, etc. » Bon, il se trouve qu'au résultat, c'est une espèce de huis clos entre deux frangins en Écosse, et c'était pas du tout le projet au départ, mais c'est un petit peu comme ça que je travaille à l'intuition. Si je vais faire un travail sur le monde entier, et je vais prendre un fil conducteur. Pourquoi ? Et j'ai décidé de faire des portraits de femmes. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est d'une certaine façon... je dis n'importe quoi, hein, mais c'est aussi ma timidité. Je me suis rendu compte que je préférais dessiner des femmes que des hommes, que lorsque je m'entretenais avec elles, parce que souvent mon travail d'enregistrement... par le passé dans mes carnets de voyage, j'essayais de discuter avec elles, qu'elles me racontent leur vie, etc. Et tout ça, je m'étais rendu compte que les femmes étaient beaucoup plus sincères dans leurs propos et qu'elles n'étaient pas tenues de paraître, au moins que les hommes en tout cas. Puis il y avait une curiosité aussi au fait que quand j'étais jeune, moi je suis rentré dans un lycée de garçons et que dans nos civilisations occidentales tout au moins, mais les petits garçons et les petites filles, dès l'âge de la puberté, ils sont séparés. Et il y a un truc qu'on dit que j'ai toujours trouvé totalement stupide, le mystère de la femme. Elle n'est pas plus mystérieuse qu'on l'est nous-mêmes, je suppose. Mais il se trouve que ça devient effectivement un mystère, parce qu'on en est séparés. Donc je voulais me rapprocher de ça, et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un petit peu de timidité. Le fait de décider de faire un travail sur les femmes autour du monde, ben j'étais bien obligé d'aller à leur rencontre. Voilà. Et j'avais commencé ce voyage, c'est qui est devenu, en fait, c'était je voulais faire des portraits de femmes, en fait, c'est devenu une sorte de livre noir de la condition des femmes dans
Absolument.
Le monde, un portrait des multiples visages de la misogynie, et c'est pas ce qui manque. Et c'est devenu un travail militant sur le droit des femmes, en quelque sorte. Et j'avais commencé par un voyage, il y a eu 15 voyages dans le monde, 15 zones du monde, sur différents continents. Et j'avais commencé par la Corne de l'Afrique. Pourquoi la Corne de l'Afrique ? Parce que c'est un pays qui m'attirait. Sans doute parce qu'on me disait que les plus belles femmes du monde, c'était les Darodes de Somalie. Surtout, il y avait Arthur Rimbaud, il y avait Monfred, il y avait... Et c'était un pays qui m'attirait. La Corne de l'Afrique, ça veut dire l'Éthiopie, la Somalie, Djibouti, l'Érythrée. Et j'ai commencé mon travail là-bas. J'étais d'ailleurs accompagné par ma fille, qui était toute jeune à l'époque. Et le premier travail qu'on a fait ensemble, c'est d'essayer, je voulais poser des questions. Alors c'était un des fils conducteurs de ce projet, c'est de poser les mêmes questions à toutes les femmes que je rencontrais dans le monde, quelles qu'elles soient, qu'elles soient citadines ou vivant toutes nues en Amazonie. C'était, je voulais poser les mêmes questions. Et on a, avec Zoé, ma fille, on a rédigé 250 questions à peu près. On a fait, et pour dans le but de resserrer cette énumération et de faire une sorte de questionnaire de Proust perso, ce qu'on a fait. Et
quel type de question, par exemple, vous vous souvenez, je sais pas, d'une ou deux?
Je me souviens de la dernière, c'était « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Mais mine de rien, elle était... Alors, c'était des questions qui touchaient à chaque chose. C'est la première, c'était d'où viens-tu, qui es-tu, où vas-tu. D'où viens-tu, c'était quelle est l'histoire de ta famille, qui es-tu, ce que tu as fait de ta vie, et qu'est-ce que tu projettes de faire éventuellement. Puis ça touchait à toute chose de la vie, à l'amour, à la mort, à la religion, un certain nombre de...
Elle répondait sans difficulté partout dans le monde?
Oui, les plus grosses difficultés, c'est pas en Afghanistan que je les ai eues, c'est à Los Angeles. Parce que le paraître dans les femmes dont j'ai fait le portrait à Los Angeles, l'image compte beaucoup. Je posais mon questionnaire à la fin de mon travail avec elles, avec les femmes en général, je les dessinais, je restais relativement longtemps dans la famille, dans la parcelle de chacune de ces femmes, etc. Et puis à la fin, je posais des questions quand on se connaissait un petit peu mieux, avec souvent un traducteur, parce que je possède pas toutes les langues du monde, n'est-ce pas? En revanche, aux États-Unis, je commençais par le questionnaire, parce que je voulais que mes modèles sachent que c'est à elles, c'est pas leur image que je m'intéressais, c'est à elles, elles-mêmes. Voilà. Le voyage a commencé en Éthiopie, non?
À Addis Abeba.
2001. Et de façon facétieuse. En fait, j'ai introduit mon ouvrage de femme du monde par le portrait de Lucie. Lucie, qui est l'australopithèque, qui était à l'époque, en 2000, je crois, qui était notre ancêtre le plus ancien.
Oui, depuis, on en a connu, découvert d'autres, mais...
Les plus anciens. Et il se trouve que, évidemment, j'ai pu dessiner le squelette original de Lucie, qui est entreposé au Muséum d'Histoire Naturelle d'Addis Abeba. En revanche, pour lui poser mon questionnaire, j'étais un peu embêté. Et c'est là que qu'a commencé ma coopération avec des scientifiques qui ne s'est jamais démenti depuis, d'ailleurs, dans tous mes voyages. Et j'étais allé voir à l'époque l'inventeur, comme on dit dans ce jargon scientifique, de Lucie, qui était Yves Coppens. Yves Coppens, qui avait un certain sens de l'humour, m'a répondu très gentiment à mon questionnaire. Je lui ai demandé de se mettre dans la peau de...
De Lucie?
De Lucie, voilà. Et il a répondu à toutes les questions. Et j'ai introduit le livre « Femmes du monde » sur le portrait de Lucie. Et pour parler de ma relation avec les scientifiques, il se trouve que quand j'étais à Djibouti, surtout, et en Somalie, un petit peu, j'avais orienté mon travail vers une pratique qui est répandue, qui est vraiment, c'est même l'endroit où ça se pratique quasiment sur 90%, si c'est pas 100% des femmes, c'est les mutilations des femmes, l'excision, l'infibulation, etc. Et j'avais essayé de comprendre en faisant des portraits de femmes qui luttaient contre, d'autres qui le pratiquaient, l'excision, etc. De comprendre le pourquoi du comment, d'où ça vient cette espèce de pratique absolument incompréhensible. Et j'avais recherché à l'époque des scientifiques qui s'occupaient de cette question. Et il se trouve que Françoise Héritier, qui était une grande scientifique,
anthropologue
qui avait hérité de la chaire de Lévi-Strauss d'ailleurs au Collège de France, avait travaillé, enfin une partie de son travail a été consacrée à ça, qui m'a expliqué que cette pratique n'avait pas été initiée par nos religions monothéistes, que ce soit l'islam, la chrétienté ou ailleurs. C'était pré-pharaonique, c'était très ancien. Françoise Héritier m'a expliqué que la circoncision et l'excision avaient la même origine, c'est-à-dire que déjà on n'était pas très 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 voyant à l'époque pré-pharaonique, parce qu'il fallait qu'il y avait une sorte de confusion qui s'installait, qui était insupportable, entre le prépuce de l'homme qui évoquait les lèvres de la femme et le clitoris de la femme qui évoquait le sexe de l'homme. Oui, bon, sauf que la circoncision, ça a peu de conséquences dans la vie des garçons. L'excision, ça en a un petit peu plus. Donc voilà, donc c'est tout ça pour dire que j'avais commencé cette coopération, si vous voulez, avec des scientifiques de toutes obédiences, ça m'a permis de comprendre moi-même et de transmettre de façon plus juste mes observations sur les terrains.
Vous évoquiez votre fille, Zoé.
Oui.
D'ailleurs, le livre Femmes du Monde s'appelle Zoé, d'ailleurs, parce que le prénom est dédoublé. Racontez-nous pourquoi.
Zoé, je crois qu'en fait, c'est la raison. Parce que vous prenez l'ouvrage de Paul Gauguin, qui s'appelle Noa. Noa, ça veut dire parfumé et eux. Et c'est un hommage aux femmes parfumées, les femmes de Polynésie. Et parce que, ce que j'ai cru pendant un moment, il y a un linguiste tahitien qui m'a dit que c'était que des conneries.
Enfin, que dédoublé, c'était féminisé, c'est ça?
C'était pas forcément le cas. Ah ouais, enfin, d'accord. Bon, bref. Donc, en tout cas, ça faisait très joli.
À l'époque, en 2007, en tous les cas, c'était bien.
J'en étais convaincu à l'époque. Oui. Voilà. D'ailleurs, j'ai continué à travailler sur ce projet avec Zoé, parce que Zoé, à l'époque, était rentrée à Sciences Po. Et il se trouve que les élèves de Sciences Po choisissent pour leur mémoire une partie du monde. Ça peut être l'Afrique du Nord pour ma fille, par exemple, ça peut être la Chine pour d'autres, etc., etc. Et je proposais à des élèves de Sciences Po, de sa promotion, de partir en repérage avant... Alors, par exemple, que je partais en Israël-Palestine, par exemple, s'il y avait une petite équipe de Sciences Po avec qui j'avais payé le voyage, je leur disais, voilà, essayez de me identifier toutes les associations de femmes que vous pouvez trouver en Palestine. Et il y en a beaucoup, des associations de femmes dans le monde entier. Et il se trouve que ça a été une grande source de mon travail, c'est-à-dire que j'allais voir ces associations de femmes qui étaient souvent dirigées, ou toujours, par des femmes de grand caractère, dont je faisais généralement le portrait, mais qui elles-mêmes m'indiquaient, tu devrais aller dans tel village. Là, il y a une fille vraiment intéressante, tu devrais aller la voir, etc. Elle a vraiment une histoire singulière et tout ça. Donc voilà, j'ai continué ma collaboration avec ma fille dans ce projet.
Mais cette façon de travailler, c'est aussi ce qui fait, Titouan Lamazou, que, au final, toutes les catégories sociales sont représentées dans votre ouvrage en deux volumes en plus. Il y a des pêcheuses, des ministres, des institutrices, des paysannes, des activistes, des prostituées.
Marina Silva au Brésil, qui est une femme absolument remarquable, qui a eu un parcours exemplaire. C'est surtout le parcours de ces femmes qui m'intéressait.
Oui, parce que de toute façon, dans le livre, ça n'est pas que des portraits, il y a aussi des textes, portraits et textes en vis-à-vis. Voilà, qui accompagne, elle se raconte.
Il y a le témoignage de ces femmes que nous avons condensé, parce que il y a certaines femmes qui peuvent être très bavardes et d'autres exactement le contraire. Et puis, il y a des commentaires, une petite chronique qui explique ma rencontre avec ces dames et ce que j'en ai ressenti.
Est-ce qu'il y a une dimension, puisque vous évoquez votre fille, est-ce qu'il y a une dimension de transmission pour vous? Est-ce que vous pensiez aussi à la transmission envers Zoé? En faisant ce travail.
Non, je crois que j'ai jamais vraiment pensé à l'impact au public qui allait regarder mon travail, jamais.
Non, mais l'emmener dans ces pays et travailler avec elle au témoignage, peut-être même finalement à rendre hommage à toutes ces femmes du monde et en particulier à celles, et elles sont très nombreuses, qui sont victimes de violences au pluriel, est-ce que ça n'est pas entamer un dialogue aussi avec il se trouve votre fille?
Oui, il se trouve de façon aussi plus simple. Comme vous avez remarqué, j'ai eu une vie relativement vagabonde, n'est-ce pas? J'étais pas toujours à la maison. Alors dès que je pouvais amener mes enfants, et Zoé, son frère par la suite, et sa petite sœur maintenant, si je peux les amener dans mes voyages, au moins...
C'est l'occasion de les voir.
Je partage des choses avec eux. Mais il se trouve que Zoé, en l'occurrence, elle a étudié. Elle est plus que mon assistante dans les travaux que je mène, et de même que pour mon fils aujourd'hui, ça devient la même chose.
Alors on pourrait imaginer, Titouan Lamazou, que, et c'est le cas d'ailleurs, que les situations sont extraordinairement diverses, c'est le cas, et en même temps, on constate des préoccupations communes. Patriarcat, misogynie, vous l'avez dit, déplacement forcé. Est-ce que malgré tout, vous avez dégagé, en dehors des violences, disons, mais est-ce que vous avez dégagé des constantes? Qu'est-ce que vous retirez de ce tour du monde au féminin, vous?
Oh, je ne sais pas si j'en retire grand-chose. En tout cas, je voulais étancher aussi une curiosité, c'est-à-dire que j'ai quand même choisi, dans beaucoup de destinations, des destinations qu'on qualifie en langage diplomatique de sensibles, n'est-ce pas? Que ce soit l'Afghanistan... la région du Kivu, le Congo, ou le Mali, ou d'autres pays, ou comme la Colombie, et des choses comme ça. Et je voulais aller voir de mes yeux aussi la réalité des choses et rester longtemps, pas uniquement avoir une idée prédigérée et des idées toutes faites sur ces conflits. Et l'Afghanistan a été, c'est pas forcément des séjours parfaitement agréables parce que c'était une période assez sinistre, mais où je...
On est entre 2001 et 2007, hein, à peu près.
Oui, c'est ça.
Pour le projet Afghanistan,
c'était 2003. J'étais arrivé juste après, comme je me plais à le dire, après l'invasion américaine. Et c'était une période un petit peu, disons, entre guillemets pacifiée, parce que c'était vraiment entre guillemets. Et qui m'a permis de me faire une idée sur ce pays absolument fascinant qu'est l'Afghanistan à travers des portraits de femmes, ce qui n'était pas évident au début d'aller faire des portraits de femmes en Afghanistan parce qu'elles sont plutôt cachées, voilées, n'est-ce pas? Et mais j'avais choisi à l'époque, je me souvenais d'un que j'avais fait le portrait d'une femme berbère du Haut Atlas. Et qui jouissait d'une liberté considérable, parce qu'elle était veuve, d'une part, et qu'elle était veuve de guerre, dont elle avait une pension. Donc elle était libre, elle n'était pas obligée de revenir chez son père, ou dans la famille de son mari. Et là, je me suis dit, tiens, en Afghanistan, je vais faire des portraits de femmes qui sont des veuves de guerre. Et j'ai pu, comme ça, faire le portrait d'une femme dont le mari avait été tué par l'invasion russe, l'autre pendant la guerre civile, l'autre pendant un dommage collatéral américain, l'autre par les talibans, etc. Ça m'a donné, entre les Pashtuns, les Hazaras, les Tadjiks ou les Ouzbeks, voir toute une mosaïque de portraits de femmes qui jouissaient d'une certaine liberté dans la mesure où elles n'avaient pas leur mari sur le dos. Jouissait d'une certaine liberté.
C'est le cas, par exemple, de Cobra, qui est cette femme que vous avez peinte, veuve Hazara, peinte en 2003. J'ai choisi celle-là en feuilletant un des volumes de Femmes du Monde, titrant l'Amazou, parce que...
Elle était d'une grande beauté.
En tous les cas, la représentation que vous en faites, je crois que, d'ailleurs, la représentation que vous faites à ce moment-là, de l'époque de vos peintures, est assez fidèle... Vous parliez d'enregistrement du monde, assez fidèle à la réalité, à ce que vous voyez. C'est
ce que je ressens, parce que parfois le portrait, pour moi, le portrait photographique n'est pas toujours ressemblant, alors que le portrait dessiné, c'est une sorte d'interprétation. Et ce que j'essaye de faire, c'est de retransmettre la beauté que je ressens. Je parle par exemple, là, on parlait d'Afghanistan, mais par exemple, j'ai fait des portraits avec les aborigènes d'Australie. Femmes aborigènes qui a priori ne correspondent pas exactement à nos canons de la beauté, mais il se trouve que quand j'ai commencé à dessiner des femmes aborigènes, au bout de très peu de temps, on s'aperçoit que de la perfection de leur visage et de leur beauté qui réagit, parce que cette beauté, j'essaie de la retranscrire, et c'est, je pense, c'est des portraits qui sont c'est de l'hyperréalisme quasiment.
Oui. Enfin, je connais, c'est pas les modèles originaux,
même
par
si,
exemple.
Même s'il y a que trois traits, c'est des...
Alors, parfois, vous mettez quand même les photos, hein.
Oui, c'est une période où j'ai fait énormément de photos. Maintenant, j'en fais plus. Je crois que je me suis arrêté comme certains photographes à l'époque où le numérique a pris le dessus sur l'argentique.
Quelle était la place de la photo quand vous en faisiez à ce moment-là?
J'avais une méthode de photo, j'appelais ça des instemporelles, c'est-à-dire que je faisais des photos de peintres, en fait. Je faisais des photos de peintres, d'ailleurs très, très inspiré du travail de David Hockney et de ses polaroïdes. C'est-à-dire que je faisais des photos. Pour certaines, c'était des photos qui faisaient une certaine taille au résultat, mais qui étaient composées de centaines de photos que je reconstituais. Ça prenait des 2 mois ou 3 mois pour faire une photo, et je reconstituais des scènes, en fait, comme si, parce que pour moi, la photo, qui est le principe de la photo, c'est un instant T avec une perspective unique. Et pour moi, comme vision d'un peintre, quand je regarde, si je faisais la photo de votre visage, par exemple, aujourd'hui, mon œil papillonne le fond de l'atelier, sur vous, sur le micro qui est devant chez vous, et tout ça, etc. C'est des multiples, c'est une foison de regard qui fait la fresque de votre regard, si vous voulez, c'est la fresque de votre vue. Et j'ai essayé de reconstituer ça en photo. Et j'aimais beaucoup travailler également à la chambre. La chambre, parce que quand vous faites une photo à la chambre, vous faites une photo. Donc il faut faire poser le modèle. C'est un petit peu la même pratique que le peintre. Les photos étaient un complément pour moi. Souvent c'est pas les photos de la personne, quoique. C'est souvent les photos de leur environnement aussi. Mais le portrait, et puis aussi le fait de dessiner quelqu'un, si vous voulez, c'est un rare luxe. Parce que si vous, dans la vie normale, si vous regardez quelqu'un le temps d'un portrait, même si ça dure pas aussi longtemps que le portrait de la Joconde qu'a fait poser Léonard de Vinci pendant 2 ans, là ça dure moins longtemps. Mais quand même, je regarde la personne, je peux la regarder pendant plusieurs minutes, voire 1 heure ou 2, pour la dessiner. Et dans la vie, vous pouvez pas faire comme ça. Si vous commencez à vous mettre devant quelqu'un, une femme en particulier, et que vous la fixez pendant 2 heures, au bout de quelques minutes, en général, vous faites envoyer balader. Alors que là, ça permet d'observer quelqu'un vraiment, très précisément, le travail du pinceau.
Elles ont une présence, ces femmes, inouïe. Vous parliez des yeux qui pétillent. Si je reviens à Kobra, cette veuve Hazara qui a été prise en Afghanistan en 2003, elle est couverte d'un voile rouge vif, rouge coquelicot. Elle a des yeux très clairs, elle vous fixe, elle a un regard déterminé. Elle est d'une grande beauté. Vous vous souvenez du contexte dans lequel vous...
Ah, très bien. Je me souviens
que vous souvenez toutes ou de certaines plus que d'autres?
De la plupart, parce que quand on passe du temps avec, je passe un peu de temps dans le pays, c'était à Bamiyan, l'endroit où les Bouddhas ont été désingués par les talibans. C'était une veuve de la guerre civile. Et elle avait eu une histoire, mais n'importe qui d'entre nous aurait été interné dans un hôpital psychiatrique si on avait subi tout ce qu'elle a subi. Avec sa fille qui a été assassinée devant elle, etc. Son mari tué, enfin bon, etc. Et qui avait gardé une dignité incroyable, une beauté incroyable.
Oui, c'est ça. Je crois que c'est la dignité que vous avez réussi à restituer. Oui. Il y a aussi Juana, enseignante rurale. Alors, pas du tout dans le même contexte.
Non, Juana, c'est dans le sud de la Colombie, dans le Putumayo. Le Putumayo, c'est un fleuve, un affluent de l'Amazone, je crois, qui fait la frontière du sud de la Colombie avec le Brésil.
Très, 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 très belle aussi.
Très voilà. Belle femme et qui aurait pu inspirer.
Brune, alors, avec les cheveux ondulés.
Quand elle vous raconte sa vie, elle aurait pu inspirer un grand roman de Garcia Marquez, parce qu'elle est passée par toutes les choses. Alors, toutes les horreurs qu'on pouvait subir en Colombie, qui est restée une femme aussi extrêmement belle, extrêmement digne, et qui, quand je l'ai rencontrée, avait enfin trouvé un certain apaisement, puisqu'elle elle travaillait pour l'ONU à l'époque et s'occupait des réfugiés colombiens, des réfugiés des luttes armées.
Bon, votre projet, il a quand même été parrainé par l'UNESCO, qui vous a nommé artiste pour la paix. Je ne sais pas si ça a représenté quelque chose pour vous.
Ça a été bien utile, figurez-vous, dans beaucoup de pays, notamment parler du Mali, lorsque les forces françaises ont voulu m'extrader du Mali. J'aurais dit non, moi je travaille pour l'ONU. Hein. J'avais même un passeport bleu à l'époque et qui me servait bien justement dans beaucoup de pays, comme dans les Kivu en RDC. Je profitais non pas des moyens logistiques de l'UNESCO qui est moins présent, mais des moyens logistiques du PAM, de l'UNHCR. Ça a été une facilité parfois, une protection aussi, parfois dans certains pays.
Vous avez continué après, ciblant un peu plus sur des femmes du Brésil, d'Afghanistan donc, et puis de la région des Grands Lacs, sur les Africaines des Grands Lacs, que j'ai sous les yeux. Ce livre a paru en 2012. C'est une suite pour vous ?
C'est-à-dire qu'il y a certaines zones du monde où j'ai éprouvé le besoin de comprendre un petit peu mieux. Et cette Ténèbres au paradis, cet ouvrage sur les femmes africaines des Grands Lacs, Ténèbres au paradis, faisant référence au livre de Conrad, Au cœur des ténèbres, qui se passe le fleuve Congo à l'époque. Et de comprendre un peu mieux ce qui se passait là-bas et de cette horreur qui continue d'ailleurs. D'ailleurs, on pourrait pourrait émettre quelques doutes sur l'utilité de mon travail, parce que ce soit quand j'étais en 2005 en Palestine, ou que ce soit de 2004 à 2011 au Congo, les situations n'ont pas véritablement changé, sinon empiré. Donc le témoignage que j'ai pu en faire n'a pas été vraiment d'une efficacité redoutable.
Par exemple, sur la couverture de Ténèbres au paradis, c'est Henriette, magnifique Henriette, une femme pygmée du territoire de Goma au nord Kivu.
Oui.
Une région qui est en proie à d'intenses conflits et violences.
Oui, ça revient aujourd'hui.
Des dizaines d'années maintenant, depuis des décennies.
Des millions de morts. Là.
Vous savez ce qu'elle est devenue, Henriette, par exemple?
Ah, pas du tout. Non, je pense qu'elle était réfugiée dans la banlieue de Goma à l'époque, parce que son biotope, qui était pour les pygmées, qui était la forêt, ils en étaient chassés par les troupes rebelles. Enfin, on va pas rentrer dans le détail de ce qui se passait, de ce qui continue à se passer dans cette région-là. Et toutes ces femmes aussi, qui sont d'une grande dignité, d'une grande force, que ce soit dans toutes les provinces de l'Est du Congo, étaient toutes, par exemple, on voit
Jeanne, fille. J'ai dit Toury en Ouganda.
Avec
ses lèvres bleues, ses yeux bleus et son foulard sur la tête bleu à motif. Vous aimez bien ce rouge aussi, rouge orangé.
Je ne sais pas si elle avait vraiment les lèvres bleues, mais enfin je l'ai dessiné ainsi. Et il se trouve que Jeanne, c'était un portrait à la fois. C'est une fille absolument touchante, mais qui était dans une détresse, mais absolue. C'est le pays d'ailleurs où je trouvais que c'était le plus... Et d'ailleurs, ça continue.
En Ouganda?
En Ouganda, je pense que c'est un des pires pays du monde. Et je pense que le sort des réfugiés en Ouganda est le plus terrible qui soit. C'est-à-dire que le HCR pouvait pas faire grand-chose. Tout était placé sous l'autorité du Premier ministre à l'époque, là-bas, qui devait être le cousin du roi, j'allais dire, le cousin du dictateur. Et ils vivaient dans des conditions, alors je sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, mais les camps de réfugiés, ça s'appelait des mouroirs, à mon appréciation, en tout cas.
Merci à vous, Titouan Lamazou. On se retrouve demain?
Eh bien, demain.
Vous laissez sur un ton un peu tristoun, mais bon, voilà, c'est comme ça, peut-être que... Et demain, je sais pas, on verra. On quittera peut-être la zone humaine pour aller vers la biodiversité non humaine. Je suis pas sûre que ce soit beaucoup plus gay, mais enfin, bon, on verra. En tous les cas, ça sera très coloré. Merci. À suivre l'épisode 5, la planète en rouge, vert et bleu. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Titouan Lamazou, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Benjamin Troncin et Benjamin Reyes, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.